savez, parfois, les difficultés auxquelles on peut être confronté, les moments difficiles que nous pouvons vivre, que ce soit individuellement ou encore collectivement, peuvent générer dans nos cœurs, dans nos vies, des inquiétudes en rapport avec l'avenir. Par exemple, je viens peut-être de perdre mon travail. On vient peut-être de me licencier. Je suis en décrochage scolaire. Mon couple traverse des moments compliqués, des moments difficiles. Je n'ai plus suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins. Je dois élever seul mes enfants. J'ai un âge qui est avancé, mais je n'ai toujours pas trouvé mon conjoint ou ma conjointe. Je n'ai toujours pas fondé de famille. J'ai un enfant qui est en situation d'handicap, un enfant qui est peut-être souffre d'une maladie rare, d'une maladie orpheline. On vient peut-être de m'annoncer une mauvaise nouvelle concernant mon état de santé, un mauvais diagnostic médical. Et j'ai peut-être perdu un être cher. Et maintenant, je me sens seul. Je me sens seul maintenant. Je passe peut-être d'échec en échec, de déception en déception dans la vie. Quel sera mon avenir? Je n'ai aucune visibilité sur mon lendemain. Et parfois, on peut avoir même le sentiment de tourner en rond dans la vie sans aucune perspective. Je suis inquiet pour mon avenir. Je me préoccupe de quoi sera fait mon lendemain. Et qu'est-ce que l'avenir me réserve? Et il arrive malheureusement que souvent certaines personnes, face aux inquiétudes en lien avec l'avenir, en lien avec le futur, vont se tourner vers les médiums, vont consulter des horoscopes, vont lire des cartes pour essayer d'avoir des réponses à leurs préoccupations, pour avoir des prédictions concernant leur avenir. D'autres vont se tourner peut-être vers des prophètes. Prophète, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé sur mon avenir? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé peut-être sur ma destinée? Et bien aimé, ce matin, je voudrais simplement rappeler à chacun d'entre nous que le Dieu de la Bible, que le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu de l'espérance. Il est celui qui garantit à tous ceux qui lui ont confié leur vie, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui lui appartiennent, un avenir et une espérance. Et peut-être que tu peux connaître des moments difficiles, des moments compliqués, de détresse, vivre des situations difficiles, mais il y a de l'espérance pour ton avenir avec le Seigneur. Et le texte que nous avons, les deux textes que nous avons lus se situent dans un contexte de grande détresse pour le royaume de Juda. Une bonne partie de ce royaume a été déportée à Babylone. Dieu avait déjà révélé au prophète Jérémie que le péché de Juda aura pour conséquence la captivité et un exil qui va durer 70 années à Babylone. C'est ce qui est arrivé. Parce que Juda a été indifférent aux avertissements donnés par Dieu par la bouche du prophète Jérémie. Et pendant qu'ils étaient en exil à Babylone, de faux prophètes ont donné de faux espoirs au peuple en promettant une délivrance rapide, en leur promettant que l'exil allait durer seulement quelques années, après quoi ils retourneront dans leur pays. Jérémie a donc écrit une lettre destinée aux captifs de Jérusalem à Babylone en leur disant ceci: ne vous fiez pas aux espoirs illusoires des faux prophètes, ne les écoutez pas. L'exil ne prendra pas fin rapidement. Comme ils le disent, l'exil sera long. Il durera 70 ans. C'est pourquoi il serait bien de vous préparer à un long séjour. Bâtissez des maisons, fondez des familles et recherchez le bien du pays dans lequel vous vivez. Toutefois, Dieu promet de mettre fin à la captivité babylonienne à l'issue de 70 ans. Et vous allez retourner dans votre pays. Et même si l'exil est long, doit être long, Dieu a un message d'espérance à vous communiquer. Et voici ce que moi, Jérémie, je veux vous annoncer de la part de l'Éternel. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans le texte de Jérémie chapitre 31, il est question de Rachel qui pleure ses enfants. En fait, ici, Rachel est la représentante ou représente toutes les mères d'Israël dont les enfants ont été emmenés en captivité. et semble à tout jamais perdu. Mais Dieu leur promet le retour et un avenir meilleur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur encourage Rachel à retenir ses larmes, à retenir les larmes de ses yeux, à retenir ses pleurs. Mon frère, ma sœur, et peut-être que toi aussi tu vis une situation qui te plonge dans un grand désespoir, à l'image des captifs de Judas. Peut-être que tu vis une situation similaire à celle de Rachel, ou encore comme les mères d'Israël qui pleurent leurs enfants et qui refusent, comme il est dit dans le texte, d'être consolées. Et tu es dans une grande inquiétude, une grande incertitude pour ton futur, pour ton avenir, pour ton lendemain. Mais peut-être que le Seigneur te dit à toi aussi ce matin, je connais les projets que j'ai moi-même conçus pour ta vie. Et ces projets que j'ai conçus pour ta vie, et ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont plutôt des projets de bonheur. Ce sont plutôt des projets de bénédiction et non de malédiction. Les projets que j'ai conçus pour ta vie visent à te donner un avenir plein d'espérance. C'est pourquoi ce matin, si tu en pleures, comme Rachel, comme les mères d'Israël, cesse de pleurer. Retiens tes les larmes de tes yeux. Ne promène plus des regards inquiets, parce qu'il y a pour toi aussi de l'espérance pour ton avenir. Et cette espérance, elle est garantie par Dieu lui-même. Et s'il est vrai, bien-aimés frères et sœurs, qu'il y a de l'espérance pour ton avenir, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment vivre concrètement une vie d'espérance ? Comment je peux vivre une vie d'espérance d'une manière concrète ? Comment je peux être renouvelé dans la vie de l'espérance ? Et ce matin, je propose qu'on examine 4 points qui, je l'espère, vont nous aider dans ce sens. Et je n'ai pas la prétention, en tout cas ce matin, de dire que je vais proposer une liste de points, une liste qui est exhaustive. Mais en tout cas, je vais essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, en me basant sur, en tout cas, les messages prophétiques de l'Ancien Testament, sans rentrer vraiment dans tous les détails et sans expliquer le prophétisme ou encore d'autres choses de l'Ancien Testament, mais voir un peu ce qui caractérisait ces prophètes-là en thème d'espérance ce matin. Et bien évidemment, les points que je voudrais ce matin partager avec vous concernent principalement ceux qui sont déjà nés de nouveau, les personnes qui ont déjà accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, les personnes qui ont fait la paix avec le Dieu de l'espérance. Et si ce matin, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Dieu de l'espérance et que tu es parmi nous, tu n'es pas, toi non plus, exclu du message d'espérance de Dieu. Et ce message également, quelque part, te concerne. Cependant, il est indispensable pour toi de recevoir d'abord Jésus-Christ dans ton cœur, de l'accepter et de par la foi. Et pourquoi cela est indispensable ? Et tout simplement parce que la seule espérance d'être sauvé, la seule espérance d'aller au ciel, la seule espérance du pardon des péchés, la seule espérance du salut réside dans une seule personne, elle réside dans une seule œuvre. Cette espérance réside dans la personne de Jésus et dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie lorsqu'il a offert sa vie en sacrifice sur le bois de la croix. Elle réside dans le sang que Jésus a répondu à la croix pour le pardon de tes péchés, pour le pardon de mes péchés. Elle réside dans la résurrection également de Jésus-Christ d'entre les morts. Parce que Jésus est mort, son corps a été enseveli, mais la Bible déclare que le troisième jour, il est sorti vainqueur, vivant du tombeau, et il est vivant, et je crois que ce matin, il est au milieu de nous, par son esprit, et je crois qu'il va faire du bien à chacun de nous. Oui, mon frère, ma sœur, ou chers amis, je voudrais simplement te dire qu'en dehors de Jésus, l'homme est complètement perdu. En dehors de Jésus, tu es complètement perdu. Tu vis dans un grand désespoir. En dehors de Jésus, l'homme est sans espérance, il est sans Dieu, nous dit la parole de Dieu. En fait, l'espérance des chrétiens, l'espérance de ceux qui sont nés de nouveau, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est pourquoi ce matin, si tu prends simplement la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu pourras toi aussi désormais envisager l'avenir avec espérance. Parce qu'à la croix, Jésus a payé le prix pour te donner une espérance nouvelle. Il a payé ce prix. Et l'espérance ultime de tout croyant, L'espérance ultime de tout enfant de Dieu, de tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie par la foi, c'est de partager la gloire du Dieu vivant et vrai, de partager sa gloire. C'est passer l'éternité dans la glorieuse présence de Dieu. La Bible déclare que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. En d'autres termes, si ce matin, tu invites le Seigneur Jésus-Christ à prendre place dans ta vie, non seulement il viendra prendre place, établir sa demeure en toi, mais il sera aussi ton espérance de la gloire à venir. Il sera aussi pour toi la garantie que tes yeux verront cette gloire que Dieu promet à tous ceux et à toutes celles qui lui ont confié leur vie, qui l'ont reçue dans leur cœur par la foi en Jésus-Christ. Et donc, vivre une vie d'espérance, c'est tout d'abord, c'est avant tout, et je pense que c'est le point le plus important, c'est avant tout accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la foi et dans une démarche de repentance. C'est mettre sa foi non seulement dans la mort de Jésus-Christ en sacrifice sur le bois de la croix, mais aussi dans la résurrection de Jésus d'entre les morts. Vivre une vie d'espérance, c'est accepter de se détourner du péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous prive de la gloire de Dieu, qui prive l'homme d'être au bénéfice de la gloire de Dieu, pour se tourner vers le Dieu de l'espérance. Et ce matin, je ne peux que vous encourager, si ce n'est pas encore le cas pour quelques-uns, à recevoir et accepter Jésus, et vous aurez une espérance nouvelle. Après quoi, vous allez être concernés par les points que je vais maintenant aborder. Et justement, le premier point que je voudrais partager, c'est que vivre dans l'espérance, ce n'est pas vivre dans l'optimisme. Vivre dans l'espérance, ce n'est pas vivre dans l'optimisme. Et je pense qu'il est vraiment important de bien distinguer ces deux notions, parce que ça peut prêter à confusion, puisqu'on a affaire à deux notions qui portent sur l'avenir. Quand on parle d'espérance ou quand on parle d'optimisme, ce sont deux notions qui portent sur l'avenir. Donc, on peut avoir l'impression qu'on a affaire à des expressions qui sont identiques, à des notions qui sont identiques, qui sont similaires, mais ce n'est pas la même chose. L'optimisme, c'est quoi? L'optimisme, c'est le reflet d'une tendance à penser que les difficultés et les situations défavorables de la vie auront une issue positive, et ce, quelle que soit la situation. Peu importe ce qui arrive, celui qui est optimiste, en fait, il n'envisage qu'une issue positive, et non, en fait, d'issue négative à ce qui lui arrive. L'optimiste, c'est celui, lorsqu'il voit une situation, lorsqu'il traverse une situation compliquée, il se dit que tout ira bien. Ça va aller. Je pense qu'on va réussir. Et donc, l'optimiste, en fait, il n'envisage aucune issue négative. Rien du tout. Il a une vision positive de la vie. Et comme on le dit souvent, c'est quelqu'un qui voit la vie en rose. L'optimiste, c'est ça. Il voit la vie en rose. Et le contraire de l'optimiste, c'est le pessimiste. Le pessimiste, je ne sais pas dans quelle couleur il voit la vie. Peut-être qu'après, vous me direz. S'il la voit en rose, en rouge, en vert, je ne sais pas. Mais c'est celui qui va regarder les difficultés, les situations compliquées, et qui va dire que je pense qu'il faut qu'on s'attende au pire. Il faut qu'on s'attende au pire. On court tous à la catastrophe. On va tous crever. C'est ça le pessimiste. Il n'envisage rien de bon, de positif. Tout ce qu'il envisage, c'est du négatif. Alors, êtes-vous pessimiste ou optimiste? Bon, c'est une question de réflexion, hein. À chacun de répondre pour lui-même. Et je pense que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'être optimiste. Parfois, il y a certaines personnes qui, apparemment pessimistes, estiment qu'elles sont plutôt réalistes. Mais ça, c'est un autre débat. Et je ne sais pas, pour vous, comme j'ai dit, il est peut-être préférable d'être optimiste plutôt que pessimiste. Pour autant, l'enfant de Dieu a une espérance. Et l'espérance, ce n'est pas l'optimisme. Pour l'enfant de Dieu, en fait, ce qui se passe, c'est que peu importe l'issue d'une situation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit positive ou négative, l'enfant de Dieu, il sait une seule chose. Il sait que c'est Dieu lui-même qui est le socle, qui est le fondement de son espérance. Il sait que Dieu a un contrôle absolu des réalités qui peuvent arriver, survenir dans sa vie, peu importe en tout cas ce qui va se passer, peu importe la pandémie, peu importe la crise économique, peu importe la crise sociale, peu importe en tout cas la crise politique, peu importe l'inflation, peu importe la guerre, l'enfant de Dieu sait que tout est sous le contrôle souverain de Dieu. L'espérance de l'enfant de Dieu n'est pas conditionnée par des réalités humaines. L'enfant de Dieu, il sait que toute chose, bonne ou mauvaise, positive ou négative, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ce que l'enfant de Dieu sait, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mon frère, ma sœur, l'enfant de Dieu sait une chose. Peut-être qu'il ne peut pas prévoir son futur. Il ne sait pas ce qui va se passer demain, ce qui va arriver, ce qui va advenir de sa vie, de ses études, de son couple, de sa carrière, peu importe la situation. Il ne sait pas ce qui va arriver, mais il a l'assurance que Dieu sait ce qui est meilleur pour son avenir. Il a l'assurance que Dieu sait ce qui est meilleur, ce qui est bon pour lui, pour son lendemain. Et parce qu'il a cette espérance dans l'avenir, il vit dans le présent comme si cette espérance était une réalité aujourd'hui, était quelque chose de réel pour aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on lit le prophète Habacuc, on voit que, si vous avez lu ce livre, il a eu une révélation de terribles jugements contre son peuple, des jugements qui allaient durer longtemps. Et la délivrance ne viendrait qu'après de longues années. Et elle serait précédée d'une période de terrible détresse. Et lorsque Habacuc a eu cette révélation, cette vision, il a été effrayé à la vue de ce qu'il a vu, et de ce qui lui a été révélé. Et il n'y avait rien de bon en perspective dans cette vision que le prophète Habacuc avait reçue. Mais toutefois, pour Habacuc, et comme il est dit dans son livre, même si le figuier ne fleurira pas, même si les champs ne donneront pas de nourriture, même s'il n'y aura pas plus de bœufs dans les étables, il dit, moi, je veux faire une chose. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux sauter, chanter de joie, tressaillir de joie dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. C'est lui qui est mon espérance. Il est celui qui rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Vous savez, les pieds des biches sont suffisamment sûrs pour ne pas perdre l'équilibre lorsqu'elles font des sauts, lorsqu'elles font des bonds dans les montagnes. Mon frère, ma sœur, de la même manière, avec le Dieu de l'espérance, avec le Dieu de la Bible, on ne perd jamais l'équilibre. Et même s'il semble qu'il n'y ait rien de bon en perspective, on ne perd jamais l'équilibre avec ce Dieu vivant et vrai. Mon deuxième point, c'est de dire que vivre dans l'espérance, c'est aussi actualiser les promesses à venir. Même si ces promesses ne sont pas, on ne le voit pas, ne sont pas encore accomplies, mais quelque part, en fait, c'est j'actualise les promesses à venir. Et comme nous le savons, la notion de temps se décline en trois grandes périodes. On a le passé qui annonce qu'un événement a déjà eu lieu, c'est déjà produit, c'est le passé, ça a été fait déjà. On a aussi le présent qui parle d'une expérience qui est immédiate, qui porte sur une situation qui existe ou qui se déroule au moment, à l'époque où l'on parle ou dont on parle. C'est le présent. Présentement, nous sommes là, réunis ensemble dans ce lieu, pour ensemble donner gloire et honneur à notre Dieu. Il y a aussi le futur, ou encore l'avenir, qui indique qu'une action va se dérouler plus tard. Et lorsque nous traversons des situations difficiles, et peut-être que mon constat il n'est pas bon, s'il n'est pas bon après, je suis ouvert aux discussions, aux critiques, ce que j'ai observé en tant qu'enfant de Dieu, c'est que notre rapport aux bénédictions du passé est différent de notre rapport aux bénédictions qui sont promises, qui ne sont pas encore, qu'on ne voit pas encore, qui ne sont pas encore arrivées. Parce que bien souvent, il arrive que de vivre dans le temps présent en rendant actuel, en rafraîchissant, en redonnant vie en quelque sorte à ce que Dieu a accompli dans le passé. On se souvient des miracles d'autrefois. On se souvient des victoires remportées autrefois. On se souvient des délivrances du passé. Et on se dit simplement que si Dieu a été capable d'agir de telle ou telle manière dans la vie d'Abraham, dans la vie de Sarah, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, mais aussi dans ma vie personnelle, eh bien, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Parce qu'il ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est bien d'actualiser ce qui a été accompli dans le passé. C'est une source d'encouragement. Ça nous fortifie, ça libère notre foi, ça nous amène à avancer et avec assurance, avec confiance, lorsqu'on traverse des moments difficiles. Oui, Seigneur, tu as permis à Anne, alors qu'elle était stérile, qu'elle n'était pas capable d'enfanter, tu as permis qu'elle puisse enfanter. Alors que le corps de Lazare était dans le tombeau depuis maintenant 4 jours, tu as ramené Lazare à la vie. Il a été ressuscité. Et je crois que tu es capable aujourd'hui encore d'accomplir ce miracle-là dans ma vie, dans ce temps présent. Cependant, il me semble que nous ayons souvent du mal à actualiser les promesses à venir, dans le sens où parfois nous vivons comme si nous n'avions aucune espérance. Mon frère, ma sœur, vivre dans l'espérance, c'est aussi apprendre à vivre aujourd'hui, apprendre aussi à saisir dans le temps présent ce qui est promis, ce qui est à venir. Ce n'est pas mais c'est encore, c'est apprendre à vivre et à saisir ces choses-là dans le temps présent, comme si c'était une réalité pour maintenant. C'est vrai que c'est à venir, mais je vais vivre aujourd'hui ces choses comme si c'était une réalité pour moi aujourd'hui. Et saisis ces choses-là par la foi, en faisant confiance au Dieu de l'espérance, parce qu'il est un Dieu qui ne déçoit pas. Il est un Dieu qui ne donne pas de faux espoirs. Il est un Dieu qui est entièrement digne de confiance. Et lorsqu'il promet quelque chose, je peux faire entièrement confiance à ce Dieu et saisir ses promesses pour ma vie aujourd'hui et vivre aujourd'hui ce qui est encore à venir. C'est rafraîchir ces choses, rafraîchir ces éléments. Bien-aimés frères et sœurs, il est important d'actualiser ce qui est promis par Dieu, ce qui est encore à venir. C'est aussi cela, vivre dans l'espérance. Et je veux préciser une chose. Lorsqu'on parle de l'espérance, il n'y a aucune notion d'incertitude. Lorsqu'on parle de l'espérance, dans le sens biblique du thème. C'est vrai que contrairement à l'usage que nous faisons couramment de ce mot dans la langue française ou dans d'autres langues, qui peut comporter une notion d'incertitude, on ne sait pas, c'est un peu aléatoire. Mais dans le sens biblique du thème, il n'y a aucune notion d'incertitude lorsqu'on parle d'espérance. Parce que l'espérance, c'est une attente confiante de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est une attente confiante du secours de Dieu. C'est une attente confiante de l'intervention miraculeuse de Dieu. C'est une attente confiante de l'intervention surnaturelle de Dieu dans ma situation. C'est vrai que je ne sais pas ce qui va arriver. Mais dans la foi et dans la confiance, j'attends patiemment parce que je sais que Dieu est fidèle à réaliser et accomplir ses promesses. Je ne sais pas quand Dieu va me sortir de mon problème. Je ne sais pas comment il va s'y prendre pour me sortir de la situation que je vis. Est-ce qu'il va venir par la gauche, par la droite, par devant, par derrière? Comment est-ce qu'il va faire? Je ne sais même pas comment les choses vont se dérouler. Mais je sais que lorsqu'il fait nuit, il finit par faire jour. Je sais que la situation que je vis en ce moment est tout simplement un aspect du projet, du plan que Dieu pour ma vie. Et même si je traverse un moment difficile, je sais que le projet que Dieu a conçu pour ma vie, comme nous l'avons dit, est un projet de paix, un non de malheur. C'est pourquoi j'actualise ce qui est à venir. Je marche et j'avance comme si ces promesses étaient déjà une réalité dans ma vie présente. Je vis dans le présent, dans le temps présent, ce qui est promis. Et peut-être que, d'un point de vue humain, je n'ai aucune raison d'espérer. Et peut-être qu'on m'a dit qu'il n'y a plus rien à faire par rapport à ma situation, par rapport à mon problème. Il est impossible que mon problème soit réglé, que soit mon problème soit résolu. On m'a dit peut-être qu'il n'y a plus de possibilité de guérison, plus de possibilité de délivrance. Il n'y a plus rien à faire, plus de possibilité de restauration. Plus de possibilités pour moi. Il n'y a aucune possibilité pour moi pour m'en sortir, de me relever de la situation que je vis. Mais comme Abraham, je veux quand même continuer d'espérer contre toute espérance. Je veux continuer d'espérer contre toute espérance, même s'il n'y a aucune raison humaine, même s'il n'y a aucune raison naturelle, aucune raison scientifique, aucune raison médicale d'espérer. Je veux simplement relever la tête en m'appuyant sur l'espérance que me donne la parole de Dieu, en m'appuyant sur l'espérance que me donne l'Écriture, en prenant appui sur l'espérance que me donnent les promesses de Dieu. Et comme Habacuc, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en prenant appui sur l'espérance que me donne l'Éternel. Je veux tressaillir de joie dans le Dieu de mon salut, parce que l'Éternel, il est ma force. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je vais simplement t'encourager. Continue d'espérer contre toute espérance. Même si on te dit, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, continue d'espérer. Parce que tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé, il y a des raisons d'espérer et de s'attendre à Dieu et de lui faire entièrement confiance. Même si tu ne sais pas comment, tu ne vois pas comment ça va se passer, comment la situation, tu vois, t'en sortir, mais sois dans une attente confiante. Parce que notre Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Vivre dans l'espérance, c'est aussi accepter que certaines choses soient arrachées en nous pour que d'autres choses soient replantées en nous. Que des choses soient arrachées pour que d'autres soient replantées. Et il y a vraiment une chose, un autre élément important qu'on trouve dans le message prophétique, notamment de l'Ancien Testament, c'est que dans le message de l'Ancien Testament, prophétique, je dis bien de l'Ancien Testament, il y a un aspect critique qui consiste à décrier, à dénoncer un ou plusieurs problèmes qui empêchent la communion avec Dieu. Mais il y a aussi un aspect encourageant qui consiste à renouveler l'espérance du peuple de Dieu dans les desseins de Dieu, dans les projets de Dieu, dans les plans de Dieu. Et en fait, les prophètes la fonction des prophètes de l'Ancien Testament ne consistait pas seulement à annoncer des oracles de jugement. Malheur à vous, pauvres pécheurs. Il y a telle chose, malheur qui va s'abattre sur vous. Mais il y avait aussi des oracles de salut. Il y avait aussi des oracles messianiques qui ont annoncé la venue du Messie. Il y avait aussi des oracles qui donnaient de l'espérance pour l'avenir, qui disaient que oui à ce que vous vivez actuellement, mais voici ce que Dieu vous réserve pour l'avenir. Voici ce que Dieu vous réserve pour le futur. Il y avait également ce message. Et le message prophétique de l'Ancien Testament combinait ces deux éléments. De nos jours, malheureusement, j'ai envie de dire que le message prophétique, ou parfois dans certains milieux, le message, la prédication ou les prédications, a essentiellement un message de bonne santé, un message de prospérité matérielle, un message de prospérité financière, un message de pensée positive, un message de développement personnel, un message qui se résume essentiellement à de bonnes choses aux autres. Et beaucoup de gens aujourd'hui recherchent ce genre de message de prédication où on leur promet de bonnes choses, le mariage, où on leur promet beaucoup d'argent, où on leur propose beaucoup de choses, mais en retour, ils doivent aussi faire beaucoup de choses, apporter aussi beaucoup de dons, de fronds, ou parfois même payer aussi pour que l'homme de Dieu ou le prophète prie. Il y a parfois des endroits où on peut avoir des prières pour différents tarifs. Après, si vous le souhaitez, à la fin, on peut aussi proposer ça avec le... Non? C'est une blague, je rigole. Des prières à 200, à 300, 400. Il m'est arrivé que des gens me proposent de l'argent pour que je prie pour eux. Mais je leur ai dit, je n'ai pas besoin de ça. Si vous voulez faire une offrande à l'église, vous avez la possibilité de le faire. Mais je n'ai pas besoin que vous me payiez pour que je prie pour vous ou avant que je prie pour vous. Mais il y a des choses comme ça qui malheureusement existent. Et en contrepartie, et beaucoup de gens courent après de telles prophéties. Et parfois, se finissent par se faire avoir. Et parfois même, ce qu'on remarque, c'est que le message prophétique, il semble faire autorité au même titre que la parole écrite. Et quelquefois même, en fait, le message prophétique semble avoir une autorité plus importante que le texte écrit. Et même si ce message, quelquefois, contient des éléments qui sont contraires à ce que dit la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, la Bible nous encourage à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon, à faire vraiment attention. Et dans d'autres contextes, la voix prophétique, c'est celle qui va essentiellement dénoncer le péché. Elle ne va rien annoncer aussi de bon pour l'avenir, pour le lendemain. Elle va dénoncer essentiellement l'injustice sociale, dénoncer tout ce qui ne va pas. Et je pense que le message prophétique ou encore la prédication aujourd'hui dans l'Église doit combiner ces deux aspects. Sinon, ça constitue un manque d'équilibre et il convient de privilégier des messages et des prédications qui sont équilibrés. Et je vais me baser sur ce texte-là de Jérémie 1, le verset 10, qui dit ceci. « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est un peu comme si Dieu disait à Jérémie, mais Jérémie, voici la mission que je te confie. Voici le message que je te demande d'annoncer. Ta mission, ton message ou ton ministère consistera à arracher, mais aussi à planter et à bâtir. Et le message prophétique ou encore la prédication doit pouvoir arracher certaines choses, notamment tout ce qui constitue une entrave à la communion avec Dieu, tout ce qui constitue une entrave à la relation avec Dieu, pour ensuite planter, bâtir d'autres choses, des choses nouvelles, pour donner, c'est-à-dire les outils nécessaires pour renouveler l'espérance du peuple de Dieu. Lorsqu'on fait du jardinage, hein, pour ceux qui sont un peu habitués à ça, souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On arrache des plantes, des mauvaises herbes, on arrache certaines choses pour ensuite pouvoir replanter d'autres choses. Parfois, il faut détruire pour pouvoir rebâtir. Mon frère, ma sœur, vivre dans l'espérance, c'est accepter de combiner ces deux aspects du message prophétique de l'Ancien Testament. Vivre dans l'espérance, c'est accepter que dans mon cœur, c'est accepter que dans ma vie personnelle, que certaines choses soient arrachées, que certaines choses soient détruites. Et peut-être que ce matin, il y a des choses qui ont besoin d'être arrachées. Il y a peut-être besoin, nécessité que des choses soient détruites. Parce que parfois, Dieu veut me communiquer les outils nécessaires pour renouveler mon espérance. Mon espérance dans ses plans, mon espérance dans ses projets. Il veut faire quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de complètement différent. Mais il y a peut-être des choses qui font obstacle et qui ont besoin d'être arrachées, qui ont besoin d'être ôtées, qui ont besoin d'être communiquées et ôtées. Il veut planter, il veut bâtir en nous des choses nouvelles, mais des choses doivent être arrachées, détruites au préalable. Je dois arracher, je dois ôter, enlever ce qui peut-être actuellement entrave ma communion, ma relation avec Dieu. Et Dieu va replanter, Dieu va rebâtir dans ma vie une espérance renouvelée dans ses plans, dans ses projets, dans ses desseins. Il va s'aimer quelque chose de complètement nouveau et différent en moi. Je voudrais terminer avec ce dernier point. Je vous dis que la vie dans l'espérance, c'est aussi une vie de foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va décrire la foi de quelle manière ? Il va décrire la foi de la manière suivante. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mon frère, ma sœur, Dieu a placé une espérance devant nous. Et dans les moments troubles, dans les moments difficiles, dans les moments de détresse, c'est par la foi que nous pouvons prendre appui sur cette espérance. La foi rend tangible, elle rend visible les choses qu'on espère, comme si on les possédait maintenant, comme si on les possédait déjà. Il est de la nature de la foi de rendre présent l'avenir et visible l'invisible. Je voudrais donner deux derniers exemples, et puis on terminera par rapport à ce point. Le premier exemple, on ne va pas lire le texte, le premier se trouve en Genèse 21, 12 à 21. Genèse 21, 12 à 21. Dans ce texte, il est question d'Agar. Agar, vous connaissez son histoire, qui a été renvoyée avec son fils par Abraham, son fils Ismaël par Abraham. Et la Bible déclare que Agar est partie, mais elle s'est égarée à un moment donné dans le désert. Et à un moment donné, son fils et elle étaient tout près de mourir. Ils avaient eu une grande soif dans le désert, mais il manquait d'eau. Il n'y avait pas d'endroit où boire. Et c'est alors que Dieu a ouvert les yeux d'Agar, alors que tout semblait perdu, alors que tout semblait désespéré pour son fils et elle, alors qu'ils étaient tout près de mourir. Elle a vu une source d'eau et elle a eu la vie sauve, de même que son fils Ismaël. Mon frère, ma sœur, la foi prend appui sur l'espérance que Dieu a placée devant nous. Et il peut arriver que le Seigneur, dans sa grâce, ouvre nos yeux pour voir des réalités qui, jusque-là, étaient cachées à nos yeux. Des réalités qui vont venir, comme pour Agar également, étancher notre soif, la soif de notre cœur, la soif de notre vie. Des réalités qui vont apporter la réponse à un besoin, la réponse à une préoccupation, la réponse à une question qu'on se pose. Parfois, il y a des réalités qui sont comme cachées, mais qui sont des réponses à des situations que nous pouvons vivre ou traverser. Mais par la foi, Dieu peut ouvrir nos yeux sur ces choses-là. Jérémie 33, le verset 3, il a dit ceci, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Le dernier exemple, dans 2 Rois 6, versets 8 à 23. Là, il est question du roi de Syrie qui était en guerre contre Israël. Et le roi de Syrie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni son conseil pour mettre en place une stratégie militaire, une stratégie de guerre pour aller combattre Israël. Mais à chaque fois qu'il mettait en place sa stratégie de guerre, sa stratégie militaire, Dieu révélait au prophète Élisée les décisions prises dans le secret par le roi de Syrie et par son armée. Élisée, bien évidemment, allait donner l'information, porter l'information au roi d'Israël. Voici ce que le roi de Syrie compte faire, donc faire attention. Et à chaque fois, les plans du roi de Syrie étaient déjoués et cela ne s'est pas produit une seule fois, mais plusieurs fois. À tel point que le roi de Syrie s'est dit, mais il y a peut-être un espion parmi nous. Il y a quelqu'un qui à chaque fois, ce qu'on dit entre nous, va rapporter au roi d'Israël. Quelqu'un, un espion parmi nous qui est au service du roi d'Israël. Il a réuni son conseil, ses serviteurs. Il leur a dit, mais qui parmi nous va à chaque fois dire au roi d'Israël les décisions que nous prenons en secret, que l'espion se dévoile? Ses serviteurs lui ont dit, mais il n'y a aucun espion parmi nous. Mais il y a un prophète en Israël, le prophète Élisée, à qui Dieu révèle tes plans. Et c'est lui qui va annoncer cela au roi d'Israël. Le roi de Syrie a donc décidé d'aller capturer Élisée à tout prix. Et on lui a dit que le prophète Élisée se trouvait dans la ville de Dothan. Il a donc envoyé une forte troupe de nuit pour encercler cette ville où se trouvait Élisée. Et la Bible déclare que lorsque le serviteur d'Élisée a vu de se lever de bon matin et qu'il a vu cette armée ennemie avec des chevaux et des chars qui encerclaient la ville, il a été terrifié. Il était dans la peur et dans la crainte. Et tout d'abord, ce qu'Élisée a fait, c'était de le rassurer en disant ceci, ne crains point. Ne crains point, pourquoi? Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ensuite, Élisée a prié pour son serviteur. Et il a dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux. Il a prié pour lui. Et l'Éternel a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée et qui a vu quelque chose de complètement différent, quelque chose qui échappait à son regard. Il a vu la montagne qui était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. La question que je voudrais, mon frère, ma soeur, te poser ce matin, est-ce que c'est au moment où Élisée a prié que Dieu a envoyé cette armée céleste de protection composée de chevaux et de chars de feu pour protéger son peuple? Est-ce que c'est au moment où Élisée a prié que Dieu l'a fait? Ou est-ce que cette armée était déjà là? Et que le serviteur d'Élisée, lui, ne voyait pas cette armée et il était dans la peur, dans la crainte. Mais Élisée, lui, parce qu'il a vu cela, il était dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité. Mon frère, ma soeur, je pense que cette armée était déjà là depuis longtemps. Et comme je viens de le dire, Élisée la voyait. Et Élisée n'était pas impressionné, il n'était pas troublé par la présence de l'armée ennemie. Parce qu'il savait que l'armée céleste était en plus grand nombre. Le serviteur d'Élisée était inquiet, il était troublé. Comment on va faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a de nombreux chars qui sont là. Il y a une armée ennemie qui est là, forte, nombreuse. Qu'est-ce qu'on va devenir? Quel sera notre lendemain? Quel sera notre avenir? Mais lorsque Dieu a ouvert ses yeux spirituels, son regard sur la situation a complètement changé. Ses perspectives ont complètement changé. Il a pu voir des réalités qui jusque-là étaient invisibles à ses yeux. Mon frère, ma soeur, ce matin, ma prière, c'est que Dieu ouvre également nos yeux spirituels sur des réalités qui viendront faire taire nos peurs, faire taire les craintes de notre cœur, nos inquiétudes, sur des réalités qui nous troublent en ce moment, qui viendront changer aussi, nous, notre regard sur ce que nous vivons en ce moment. Mon frère, ma soeur, il y a de l'espérance pour ton avenir. Parce que celui qui est avec toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et la vie dans l'espérance est une vie de foi. Une foi qui rend présent l'avenir et visible l'invisible. Nous allons courber nos fronts, fermer nos yeux. Et peut-être ce matin, donner l'opportunité, l'occasion à quelques-uns parmi nous qui ont besoin de dire, Seigneur, moi j'ai besoin ce matin d'être renouvelé dans la vie d'espérance. J'ai besoin que tu me renouvelles dans la vie d'espérance. Et que, quelle que soit l'issue de la situation que je vis en ce moment, quelle que soit l'issue de la situation que je traverse en ce moment, je veux croire que tu feras concourir toutes choses à mon bien, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient positives ou négatives. Je veux croire que tu vas faire concourir toutes choses à mon bien. Je veux, Seigneur, ce matin, être renouvelé dans l'attente confiante de tes promesses, des promesses de Dieu pour moi contenues dans ta parole. Je veux ce matin espérer contre toute espérance. Même s'il n'y a aucune raison pour moi humaine d'espérer, et même si on m'a dit que tout est terminé, mais parce que Dieu n'a pas encore dit c'est terminé, je veux quand même espérer. Je veux croire que mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans la situation que je vis, dans la situation que je traverse. Ce matin, je vais dire, Seigneur, renouvellement dans la vie d'espérance. Et peut-être qu'il y a des choses en moi qui ont complètement besoin d'être arrachées parce que Dieu veut rebâtir quelque chose de différent, quelque chose de nouveau dans mon cœur, quelque chose de nouveau dans ma famille, dans mon foyer. Mais il veut arracher, il y a des choses qui ont besoin d'être ôtées, d'être arrachées, des choses qui constituent une entrave à ma communion avec Dieu. Ça peut être un raisonnement, un péché particulier, une addiction, un manque de pardon. Et peut-être tu connais et tu vois ce matin ce qui a besoin d'être ôté, ce qui a besoin d'être arraché. Oui, Seigneur, ce matin, renouvelle-moi dans la vie de l'espérance. J'ai besoin que tu ouvres mes yeux sur des réalités qui jusque-là m'étaient cachées. Je vais saisir par la foi les promesses que tu as pour moi. Et même si je ne vois pas encore les choses arriver, je veux demeurer dans l'attente confiante que tu accompliras ce que tu as dit. Que tu accompliras ce que tu as promis. Seigneur, ce matin, il te dit ce matin, je connais les projets que je formais pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il te dit ce matin, comme à Rachel et comme au maître d'Israël, retiens tes larmes. Retiens les larmes de tes yeux, tes pleurs, parce qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais Dieu te dit que ce n'est pas encore terminé. Tu peux lui faire confiance. Alors que les têtes sont baissées, si vous avez besoin qu'on vous aide dans la prière, levez simplement la main. Là où vous êtes. Et nous allons prendre le temps de prier pour vous. Vous pouvez baisser vos mains au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes ce matin? J'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Seigneur, ce matin, je veux prier pour mon frère, prier pour ma sœur. Seigneur, qui ce matin s'est senti interpellé par un ou plusieurs points qui ont été développés, partagés dans ce message. Mon frère, ma sœur, qui ce matin a besoin d'être renouvelé dans la vie d'espérance. Seigneur, je te prie vraiment ce matin de l'encourager, de fortifier mon frère, de fortifier ma sœur. Éternel, et donne-lui vraiment de saisir par la foi que, Seigneur, tu feras concourir toutes choses pour son bien, à son bien. Seigneur, qu'elle soit bonne ou notre Dieu mauvaise. Seigneur, nous, en tant que croyants, Seigneur, nous avons une espérance. Et comme nous l'avons dit, cette espérance, ce n'est pas de l'optimisme, notre Dieu. Notre Père, nous voulons nous attendre à toi seul. Et je prie pour mon frère, pour ma sœur, afin que, Seigneur, tu l'encourages et qu'il soit renouvelé dans cette vie d'espérance, Seigneur. Qu'il soit renouvelé ce matin dans cette attente confiante, notre Dieu, que tu accompliras ce que tu as dit, Seigneur, notre Dieu. Et même si, Seigneur, il n'y a aucune raison humaine d'espérer, je crois que tu es le Dieu de l'espérance, notre Dieu, et que tu ne trompes pas, et que nous pouvons te faire entièrement confiance, notre Père, et que tu n'as pas encore dit que c'est terminé, Seigneur, notre Dieu, que tu n'as pas encore dit que c'est la fin. Et je prie afin que mon frère, ma sœur, ce matin, soit encouragé et soit renouvelé dans la vie de l'espérance au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père, s'il y a des choses dans les cœurs, dans les vies et qui ont besoin d'être arrachées, Seigneur, Éternel, je prie ce matin que ces choses soient arrachées, notre Dieu, afin que des choses nouvelles soient plantées ce matin, afin qu'une espérance nouvelle soit plantée ce matin, afin que quelque chose de complètement nouveau, différent soit planté ce matin. Seigneur, je te prie de tendre ta main. Et si pour quelques-uns, Seigneur, ils avaient besoin que leurs yeux spirituels soient ouverts sur des réalités qui jusqu'à présent étaient cachées à leurs yeux, sur des directives, Seigneur, sur des orientations, Seigneur, sur des préoccupations qu'ils ont, Seigneur,
Je prie ce matin afin que tu ouvres leurs yeux spirituels, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent saisir par la foi que celui qui est avec eux, il est plus fort que celui qui est dans le monde, notre Dieu, et qu'il n'y ait pas de crainte, de peur, de doute dans leur cœur, parce que le Dieu qui est avec eux, il est le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui ne change pas, qui demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, reçois, Seigneur, la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.